La carte blanche, Africa Radio.
Et avant de parler, de retrouver notre invité carte blanche, je vous rappelle que ce soir nous parlerons de l'élection présidentielle de dimanche prochain au Congo. Les conditions d'un scrutin transparent sont-elles réunies? Mais d'abord, nous recevons Grégory Sileni qui est en ligne de Paris. Monsieur Sileni, bonsoir.
Oui, bonsoir Liliane, bonsoir à tous les auditeurs d'Africa Radio.
Journaliste cofondateur de Madagascar Média. Premier sujet, Grégory Sileni, le reconfinement dès ce soir à minuit et pour un mois et toute la semaine dans 16 départements, insuffisant, estiment certains experts de santé, pour freiner rapidement et significativement la progression du virus et désengorger les hôpitaux surchargés. C'est votre avis également ?
Oui, de toutes les façons, c'était inéluctable et beaucoup le pressentaient. Ce qu'on peut analyser surtout, c'est que ce confinement apparaît comme un sentiment de défaite pour les autorités françaises, puisque c'était vraiment le dernier recours. C'était quelque chose à laquelle Emmanuel Macron ne voulait pas du tout quand ça avait été notamment soulevé en début d'année, en janvier 2021. Et là, le contexte sanitaire et l'évolution des cas a rendu obligatoire ce confinement-là, qui est un confinement très différent de celui qu'on a eu l'année dernière, le premier confinement, puisqu'il autorise quand même certaines libertés, notamment celle de pouvoir circuler dans un périmètre de
10 km.
Exactement, ce qui n'était pas du tout le cas lors du premier confinement. Et il est davantage plus ciblé, et c'est un peu ce que beaucoup d'analystes et d'observateurs demandaient, plutôt que
général. Confinement light. Mais je disais, beaucoup d'experts ont exprimé leur inquiétude quant à la capacité de ces mesures de pouvoir permettre de réduire la pression sur les hôpitaux.
Oui, oui. Moi, je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, ça sera quand même positif. Parce qu'après, il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il y a les vacances scolaires qui s'annonçaient. On sait qu'il y a beaucoup de déplacements. Après, on sait aussi que tout est polarisé sur l'Île-de-France. Mais moi, ce que j'ai envie de dire dans mon analyse, on voit aujourd'hui que le pouvoir du politique est confiné pour le coup, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, parce que il y a d'un côté la communauté scientifique qui a tout son poids, de l'autre côté il y a les échéances électorales dont on ne peut pas faire fi, puisqu'il y a quand même des présidentielles qui s'annoncent, et la troisième variable à prendre en considération, c'est la dimension psychologique qui aujourd'hui a pris beaucoup de pas, parce que aujourd'hui la population française n'en peut plus, et on sent que les autorités vacillent à cause de ce sentiment général qui est contre tout ce qui peut se faire ici en France, parce que quelles que soient les décisions qui sont prises, elles demeurent impopulaires.
Deuxième sujet, avec vous Grégory Sileni, la vaccination avec le vaccin AstraZeneca qui a repris ce vendredi après une suspension de 3 jours.
Oui, bah, là en fait on est obligé de lier les deux thèmes, hein, parce qu'on est sur le même sujet. Ce que j'ai envie de partager, c'est que on a le sentiment que le mal a déjà été fait. Il y a quand même une relative aversion à la vaccination au sein de la population française. L'AstraZeneca, bien évidemment, fait partie, concentre encore plus de réticence quant à la vaccination. Et cela démontre encore que je pense que cette crise sanitaire fait ressortir les mots français. Et là, ils ressortent encore plus, que ça soit sur la vaccination, que ça soit sur le pouvoir politique et la capacité finalement à fédérer.
Et en deux mots, quels sont ces mots ?
En deux mots, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça manque de stratégie finalement. Vous voyez même dans la thématique qui commençait à aborder, on est en train de cloisonner les thématiques, alors que si on veut mettre une stratégie en place, il faudrait qu'on fasse un attelage entre d'un côté la vaccination et de l'autre, à savoir comment on peut agir de manière territoriale avec du confinement ou non, ou auprès de certaines populations ciblées, même si on sait qu'il y a aussi le poids juridique et de l'état de droit qui peut être tendu si jamais on le faisait en France.
Au pas de course, Grégory Sileni, clash entre Moscou et Washington. À l'origine, les déclarations du président américain Joe Biden, selon lesquelles il considérait son homologue russe Vladimir Poutine comme un tueur, alors qu'il répondait à une question d'un journaliste.
Alors, on peut s'étonner de la forme. Moi, c'est la forme qui m'a beaucoup interpellé dans les propos de Joe Biden, parce que on aurait pu croire que avec ce qu'on avait vu avec Donald Trump et cette diplomatie décomplexée où on pouvait un peu dire tout ce qu'on voulait sans justement prendre les précautions que prévaut la diplomatie, qu'on allait finalement avoir une rupture. Alors là, on est en train de s'apercevoir que Joe Biden, dans le style, est dans un continuum de ce que faisait son prédécesseur Donald Trump. Après, il est en train aussi de redessiner les contours de la politique étrangère américaine, puisqu'il est en train de désigner quels qui seront finalement ses ennemis des États-Unis, et avec, on peut dire, finalement, un pouvoir bicéphale ou un pouvoir partagé entre la Russie d'un côté et de l'autre la Chine, et avec, dans la forme, toujours cette volonté d'avoir une diplomatie musclée. Et cette diplomatie musclée se construira forcément avec, comme alliés, les Européens et l'Union européenne.
Donc, il a manqué, semble-t-il, de tact, c'est ce que je lis entre les lignes de vos propos. En tout cas, Moscou a rappelé son ambassadeur qui devrait revenir samedi dans la capitale russe pour des consultations. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une désescalade le plus rapidement possible ou la situation va aller crescendo ?
Je pense quand même que Vladimir Poutine a quand même répondu avec humour. Et il a été aussi assez précis dans ce qu'il a pu rétorquer en disant que dans l'intérêt des deux pays, des choses allaient se poursuivre. Donc moi, je ne pense pas que ça va aller plus loin, en tout cas dans cette joute verbale, qu'il va y avoir à un moment donné un apaisement. Mais Joe Biden voulait sensiblement montrer que ce qui avait été quelquefois critiqué sur Donald Trump, s'agissant de ces quelques liens avec ces complaisances vis-à-vis de Vladimir Poutine, que cette posture-là sera totalement rompue par rapport au passé et son prédécesseur.
Merci beaucoup Grégory Sileni, journaliste cofondateur de Madagascar Média. Vous étiez notre invité carte blanche de ce vendredi. Merci.
Africa, le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nous débattons ce soir des conditions d'organisation de l'élection présidentielle de dimanche prochain au Congo avec quatre invités. Patrick Dion, membre du comité central du PCT, le parti au pouvoir. Il est également président du PCT en France. Et Marcus Kissa, coordonnateur du collectif Ça suffit, proche de l'opposition. Monsieur Kissa, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Merci à vous, Joe Washington et Bina. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à Brazzaville, président de la Fondation Ebina. Et nous avons également en ligne de Brazzaville Félicien Mavungu, prêtre catholique, coordonnateur de la Commission épiscopale Justice et Paix. Bonsoir, monsieur Mavungu.
Bonsoir, madame.
Permettez-moi de demander, qu'est-ce qui s'est. Il faut dire l'abbé, je crois que c'est cela. L'abbé Félicien Mavungu.
Oui, c'est ça. C'est comme vous voulez, oui, de préférence.
D'accord, merci monsieur l'abbé. On espère entendre dans quelques instants Patrick Ndion, président du PCT en France, qui n'est pas encore en ligne avec nous. Nous essayons toujours de le joindre. Je vais commencer peut-être avec monsieur Ebina, qui est à Brazzaville. La campagne électorale s'achève donc ce soir, monsieur Joe Washington Ebina. Comment appréciez-vous le déroulement de celle-ci ?
Je tiens déjà à rappeler qu'au moment où je vous parle, il y a en détention le docteur Alain Zabana, qui est un des leaders de la société civile au Congo-Brazzaville, ce qui déjà démontre que le monde électoral ou le monde politique au Congo-Brazzaville est malheureusement taché de beaucoup d'irrégularités en ce qui concerne la liberté des personnes. Et en ce qui concerne aussi l'élection, bon, écoutez, nous, à notre niveau, nous constatons simplement que depuis près d'une année, le candidat Denis Sassou Nguesso avait déjà ses affiches un peu partout dans la ville. Et donc aujourd'hui, considérer simplement que cette élection est transparente, je trouve que c'est pas possible. C'est dès le début, il y a beaucoup d'irrégularités qui entacheraient également la crédibilité de ces élections.
Donc vous estimez que le parti au pouvoir a lancé la campagne même avant l'ouverture officielle de celle-ci. Est-ce que pour autant, les autres six candidats qui lui feront face dimanche prochain se sont finalement un peu retrouvés à l'étroit ?
Je considère, oui, nous pouvons le considérer dans la mesure où il faut rappeler qu'il y a 5 ans, il y avait une élection au Congo-Brazzaville présidentielle il y a 5 ans. 2 candidats ont été emprisonnés, qui sont encore en prison aujourd'hui, en la personne de Général Mokoko et de l'ancien ministre Okombi Salissa. 5 ans après...
Général Mokoko est arrivé troisième en 2016.
Bon, je considère simplement qu'il était un ancien candidat et aujourd'hui repartir dans d'autres élections sans qu'ils aient été libérés, pour nous c'est aussi une tâche grave pour la crédibilité de ces élections.
Je vais également demander à la température avec l'abbé Mavungu. Est-ce qu'il y a eu la mobilisation des Congolais pendant cette campagne électorale, monsieur l'abbé? Est-ce que vous avez senti que les populations, il y a eu un engouement?
Oui, il y a eu un engouement, mais il y a quand même des réserves à émettre. On l'a senti durant tout le temps de la campagne que tous les candidats n'avaient pas les mêmes moyens. Partout, vous voyez les effigies du président, des affiches, un grand déploiement. Par contre, on constate avec tristesse d'ailleurs que les autres candidats n'ont pas eu les mêmes moyens. Alors, que s'est-il passé? On ne sait pas. Est-ce que ils ont été soutenus? Nous n'en savons pas trop. Mais quand il y a une campagne, on aimerait que tout le monde s'exprime de la même manière. Et ensuite, personnellement, je suis très déçu de cette campagne parce qu'il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas de débat à la presse, de débat télévisé. Les candidats sont passés à tour de rôle. Et moi, qui suis très attentif au débat, à la culture démocratique, je suis vraiment déçu. Il y a quand même des choses à faire, à refaire, à faire pour la prochaine fois, que ceux qui veulent, ceux qui ambitionnent d'être, d'occuper des grandes fonctions au niveau de l'État, doivent battre publiquement devant l'opinion, devant la presse. Or, on a vu les gens se déployer dans toutes les régions, notamment le candidat président. Mais sans débat public, moi je suis complètement déçu.
Merci.
Sans compter ce que mon frère, mon ami Ebina a déploré, que je partage totalement.
Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Marcus Kissa, je propose qu'on écoute Patrick Ndian, puisqu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été relevées. Monsieur Ndian, me fait signe que vous êtes bien là, vous m'entendez?
Oui, là, je vous entends très bien.
Bonsoir.
Faites un petit rappel, là, un petit résumé, là.
Pardon.
Parce que j'ai pris l'antenne en retard.
Non, je vais revenir. Je signale déjà que vous êtes donc membre du comité central PCT et président de ce parti. C'est le parti au pouvoir en France. On a écouté M. Ebina dire que oui, il y a eu la campagne qui semble avoir été lancée avant l'ouverture officielle. L'abbé Mavungu vient de regretter que la campagne s'est transformée en, disons, moment de folklore, pas de véritable débat politique, moyen disproportionné. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez répondre à cela? Ensuite, on écoute M. Kissa.
Ok, je peux vous répondre en deux mots. D'abord, moi, je félicite, je suis très, très, très heureux que la campagne électorale présidentielle de cette année-ci s'est déroulée depuis la pré-campagne, l'avant-campagne, jusqu'au démarrage officiel de la campagne présidentielle le 5 mars jusqu'à maintenant, avec aucun incident majeur. Ça, c'est un, je m'en félicite. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux, je me permets de dire quand même que le problème des débats que soulève notre frère est un problème réel. Par contre, c'est un problème de culture journalistique africaine absente complètement dans les débats. La France, nous sommes très heureux, nous y habitons. Nous sommes habitués au premier, non, au deuxième tour plutôt, d'avoir des débats contradictoires entre les différents candidats à l'élection présidentielle. Par contre, ce n'est pas le cas en Afrique, et particulièrement dans notre pays. Il est du devoir des journalistes, de la radio, de la télévision, la presse écrite et la presse numérique, de faire des efforts de telle sorte qu'ils puissent convoquer, non, je parle mal, qu'ils puissent inviter les candidats, les sept notamment, cette fois-ci, en 2016, nous en avons eu neuf, de les convoquer, de les inviter à des débats contradictoires.
Donc vous dites, M. Dion, que si jamais, c'est la faute des journalistes, et si jamais ils avaient souhaité organiser ce débat, votre candidat, Denis Sassou Nguesso, aurait pris part à un débat contradictoire?
Pourquoi il aurait refusé? Honte à lui si jamais il refuse. Pourquoi il aurait refusé? Est-ce que vous avez entendu un seul journaliste de la radio ou de la télévision inviter Nzon Mathias à un débat contradictoire avec Kolela? Kolela en débat contradictoire avec Onyangé? Onyangé en débat contradictoire avec Sassou Nguesso et que l'un d'eux aurait refusé? Personne.
Merci
donc
beaucoup,
c'est un problème,
monsieur.
C'est une responsabilité qui incombe à la presse congolaise.
D'accord. Monsieur Marcus Kissa, on voit très bien que, que le débat se passe aussi évidemment en France, même si l'élection c'est au Congo. Vous, quelles sont les premières observations que vous avez faites à l'issue de cette campagne électorale?
Déjà, les propos de Monsieur Zhang, une incohérence déjà par rapport aux institutions congolaises. Il parle d'une pré-campagne. Le seul à avoir mené une pré-campagne au Congo, c'est Monsieur Sassou, se cachant derrière des prétextes fallacieux comme des dépôts de pierres, de première pierre à gauche, dépôts de première pierre à droite. Les autres n'ont fait aucune pré-campagne. Et même, selon la loi électorale, le code électoral ne reconnaît aucune pré-campagne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut noter un ensemble d'inégalités et d'inéquités dans les moyens qui ont été distribués aux candidats. Lorsqu'on parle justement du déploiement de cette campagne, on se rend compte que M. Sassou a eu l'opportunité de survoler l'ensemble des régions du pays, alors que les autres candidats ont été interdits d'accès dans certaines localités, leur prétextant même qu'il fallait présenter, pour Mathias Zan par exemple, ça a été le cas, qu'il fallait présenter un droit d'entrée dans la ville.
Il s'agit de quelle ville précisément ?
Je crois que c'était la ville de Ouesso. Ce qui veut tout simplement dire qu'on renie à M. Mathias Zan le fait même d'être congolais.
Donc vous estimez qu'il n'y a pas eu de libre circulation de tous les candidats pendant cette campagne électorale ?
Mais je sais pas que j'estime, c'est, les faits sont là. Il suffit de regarder l'ensemble des campagnes qui ont été librement, enfin de la campagne des autres candidats. Ils se sont déplacés uniquement dans les régions du Sud et c'est à dessein. C'est pour démontrer que ces candidats sont peut-être populaires dans les régions du Sud, mais pas dans les régions du Nord. Je peux vous montrer, vous énumérer un certain nombre d'inégalités. Télé Congo, qui est la chaîne nationale qui est censée recevoir l'ensemble des candidats, n'a fait que diffuser les déplacements du président actuel et non pas des autres candidats, ce qui est justement révélateur d'une situation. Et M. Zhang nous parle aussi, rejette la faute sur la presse locale,
d'organiser ce débat contradictoire entre les candidats.
Mais c'est trop facile. Il suffit de remonter quelques mois dans le passé pour se rendre compte qu'il y a un journaliste qui a été arrêté et qui, si mes souvenirs sont bons, est encore en prison pour avoir osé évoquer justement un sujet qui fâche. Aujourd'hui, la presse au Congo, elle est la moins bien notée parce que...
De quel sujet parlez-vous, s'il vous plaît ? Quand vous parlez des sujets qui fâchent, tout le monde n'est pas au courant. C'était quoi le sujet ?
Oui, non, je n'ai plus le thème même de son arrestation, mais il est actuellement détenu pour avoir publié, je crois, un article, mais je n'ai plus le contenu de cet article. Concernant ensuite...
Très rapidement, pour terminer.
Oui, le dernier, je parlerai des menaces... diffusé par M. Ayessa, qui est un des ministres du gouvernement, à l'attention d'un des candidats. Il ne cite pas le candidat, mais les menaces sont claires et avérées. Il dit clairement dans son discours qu'ils essaient, ils vont voir. On n'est plus dans la campagne, on est dans un pugilat qui ressemble à une cour de récréation.
Merci.
Où les hommes politiques se sont limite fourvoyés.
Merci beaucoup Monsieur Marcus Kissa. Je vous propose messieurs d'observer une courte pause et on se retrouvera évidemment pour parler des conséquences de cette situation, peut-être sur le taux de participation dimanche prochain, mais aussi évidemment de ce refus par les autorités de délivrer les autorisations à la conférence épiscopale pour déployer ses observateurs lors de cette élection le dimanche prochain au Congo. Restez avec nous.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
L'élection présidentielle de dimanche prochain au Congo sera-t-elle apaisée et transparente ? 4 invités pour en parler, 2 à Brazzaville et 2 ici en France. Joe Washington Ebina, président de la Fondation Ebina, Félicien Mavungu, abbé et prêtre catholique, coordonnateur de la Commission épiscopale Justice et Paix, Marcus Kissa, coordonnateur du collectif Sassoufi ici en France, proche de l'opposition, et Patrick Dion, membre du comité central du PCT, le parti au pouvoir. Il est aussi président de ce parti en France. Monsieur Ebina, au regard de tout ce qui a été dit précédemment, est-ce que vous pensez qu'il y aura affluence des électeurs dimanche prochain dans les bureaux de vote ?
Juste un petit rappel, c'est que lorsque le représentant de PCT dit qu'il n'y a pas eu d'incident, il y a eu des incidents graves. L'arrestation du journaliste qui a le journal le plus critique, si vous voulez, le journal le plus lu actuellement dans Brazzaville, qui est Celle Piment, qui est évidemment en prison, comme l'a rappelé l'autre interlocuteur. Il y a également le représentant de la société civile qui est en prison. Ce sont des incidents très très graves en période électorale. Maintenant, les organisations de la société civile ont fait une déclaration pour simplement dire que il y a 5 ans, les élections n'étaient pas crédibles parce que les gens ont été arrêtés, les leaders ont été arrêtés, les candidats ont été arrêtés. 5 ans après, nous considérons que cette élection ne sera absolument pas crédible non plus. Parce que, évidemment, il y a plusieurs paramètres qui contestent justement la crédibilité des élections. Dont, par exemple, la CENI qui est truffé simplement des représentants d'un seul parti en majorité. Il y a pas mal de circonstances qui aujourd'hui poussent à simplement constater que malheureusement nous allons revoir ou obtenir les mêmes résultats comme nous avons obtenu il y a 5 ans. Aucun changement, donc nous avons demandé aux populations de boycotter. Maintenant, est-ce que certains iront voter? Nous allons constater sur le terrain. Mais nous ne serons pas surpris de constater que les résultats seront les mêmes comme il y a 5 ans.
Même avec éventuellement l'appel, même si les électeurs ne se rendaient pas massivement aux urnes, quand vous leur demandez de ne pas y aller?
Mais simplement parce que nous savons qu'il n'y a pas de crédibilité en ce qui concerne les élections. Vous voyez très bien que vous voyez le plus grand scandale qui vient d'arriver, c'est qu'on a interdit aux évêques de déployer leurs représentants. Mais ça veut dire qu'ils ne veulent pas de transparence.
Merci.
Et lorsqu'on ne veut pas de transparence, ça veut dire qu'ils sont prêts à tricher. Et ça, les Congolais le savent déjà.
Merci, M. Ebina. Et justement, nous en parlons tout de suite avec l'abbé Félicien Mavungu. La conférence épiscopale, c'est donc vu refuser les autorisations nécessaires pour déployer les observateurs. Quelle est votre analyse de cette décision, M. l'abbé?
Mais nous étions surpris. Et jusqu'à maintenant, nous sommes dubitatifs en continuant à se poser la question sur les véritables mobiles de ce refus. Étant donné que l'Église est partie intégrante de la société civile, les ONG, les organisations de la société civile, accompagnent la société politique pour plus de transparence et que, à la fin de chaque élection, ceux qui ont observé, ils rendent public leur rapport et ça permet, ça peut éclairer l'opinion, peut-être même le juge électoral en cas de contentieux. Alors nous étions vraiment très surpris de ce refus, alors que la demande a été faite en bonne et due forme.
L'organisme public en charge de ces accréditations a dit simplement qu'il n'était pas possible de réserver une suite favorable à votre demande.
Ah non, lisez bien la lettre, on disait bien que nous avons un des motifs, parce que nous n'avons pas de récépissé qui nous permet de réserver des élections. Et là aussi, c'est une grande surprise. Nous avons demandé, il y a quelques années, de récépissé qui nous avait été octroyé par les autorités des pouvoirs publics. Mais donc, nous sommes reconnus comme membres de la société civile. Et comme je l'ai dit déjà dans mon interview il y a 2 jours, nous... L'Église est une institution crédible et qui a même un accord cadre avec l'État congolais. Donc, pour observer les élections, on n'avait pas besoin d'une autorisation spéciale ou que notre récépissé, qui a été demandé par la commission du CP, comporte la mention observateur aux élections.
Merci.
Là, on comprend bien que le prétexte a été trouvé pour nous. Ne pas nous voir dans les bureaux de vote.
Merci beaucoup. C'est également votre impression, M. Marcus Kissa? Un prétexte pour...
Moi, la question que je me pose, c'est de quoi ont-ils peur? Ils annoncent depuis quasiment 6 mois que ce sera un coup KO, que le président sortant n'aura même pas besoin d'aller au deuxième tour, tellement il est populaire dans ce pays. Mais pourquoi ont-ils peur de cette transparence? La raison qu'ils invoquent, c'est de dire que dans les statuts de la conférence épiscopale, il n'y a pas cette faculté à être observateur.
Mais lorsqu'on fait venir l'Union européenne dans ses statuts, il n'y a pas marqué observateur. Lorsqu'on fait venir l'Union africaine, il n'y a pas marqué observateur. C'est dans les moyens dont dispose la conférence épiscopale qu'on peut juger de sa capacité à être observateur ou
pas. Et finalement, votre analyse, c'est quoi donc? Si les Congolais, les autorités congolaises ont accepté d'accréditer les autres, c'est-à-dire les non-nationaux, et refusé les accréditations à l'Église catholique, quelle analyse vous en faites?
Non, mais j'en venais, j'allais même vous dire, parce que là, ce que vous dites, c'est même complètement faux, c'est que ils n'ont même pas offert d'accréditation à des organismes internationaux.
J'ai cru que c'est ce que vous disiez, que vous ne comprenez
non, oui,
pas
je
pourquoi.
Faisais un je faisais un comparatif avec les statuts des autres organisations qui se déclarent parfois observateurs. Aujourd'hui, il n'y a aucun observateur sur le terrain, et la critique qui est faite à la conférence épiscopale, c'est de dire qu'ils n'ont pas à se mêler de politique, alors que on voit des représentants de l'Église, des églises autres que l'Église catholique, donc des pasteurs et autres églises, brandir le drapeau du PCT ou porter des t-shirts à l'effigie du président sortant.
On va permettre, s'il vous plaît, à M. Patrick Dion de réagir peut-être aux déclarations que vous avez faites. Pourquoi l'Église catholique n'a-t-elle pas pu obtenir cette accréditation, M. Dion?
Est-ce que vous pensez que si l'Église catholique avait obtenu cette accréditation, les élections seraient crédibles à cause de sa présence? Est-ce que les autres églises n'ont pas la même position que l'Église catholique? L'Église orthodoxe n'est-elle pas présente? L'Église musulmane n'est-elle pas présente? L'Église kimbanguiste n'est-elle pas présente? Il y a beaucoup d'églises qui sont présentes là-bas, sauf l'Église catholique pour des raisons évidentes. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux, la crédibilité d'une élection, madame, soyons sérieux, ne peut pas être mise en doute rien que pour l'absence d'une couche sociale de la société. C'est pas possible. Maintenant, pour revenir aux autres réactions, alors j'aimerais dire quand même à Monsieur Ebina, j'ai beaucoup de respect pour lui et pour notamment la qualité du combat qu'il mène, mais je m'inscris en faux par rapport à ce qu'il dit. On peut pas faire une induction mathématique incomplète en généralisant comme ça. Un journaliste aurait été, il cite même pas le nom, il cite même pas le chef d'accusation pour lequel il a été arrêté. Un journaliste a été arrêté. Tout là, les élections ne sont plus crédibles parce qu'un journaliste a été arrêté. Soyons sérieux. Les élections se passent jusqu'à maintenant de façon crédible, de façon pacifique, de façon transparente. Ça, c'est un de deux. Il y a des observateurs étrangers partout, internationaux partout. Les observateurs européens sont là-bas, africains de toute l'Afrique sont là-bas, nationaux sont là-bas.
Deux. Vous pouvez citer les noms de ces organisations qui ont déployé les observateurs?
Les bureaux.
Pardon, monsieur.
On ne serait pas dedans, qu'on ne serait pas que c'est pas crédible. On n'a empêché à personne de mettre les effigies, les pancartes, partout, à gauche, à droite, dans la ville de Brazzaville et sur l'ensemble du territoire congolais. Tous les candidats ont mis leurs affiches partout, c'est vrai. Que le candidat du PCT, mais c'est tout à fait normal, madame. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le président du PCT a double casquette. Il est en même temps président en exercice, président de la République, et en même temps candidat. Il est évident que, en même temps, il exerce sa fonction présidentielle, en même temps, il est candidat, et donc, par conséquent, il est président par ailleurs. Je vous rappelle, si vous le savez très bien, président du parti le plus implanté, le plus populaire, le plus géographiquement implanté sur les 12 départements. Il
Merci.
Est normal que ces effigies soient partout. C'est pas des petits partis, des petits candidats qui sont là.
Mais monsieur Dion,
vous n'allez pas comparer Sassou Nguesso dans son implantation géographique avec Jean-Mathias? Soyons sérieux,
monsieur.
Avec Kolela, soyons sérieux, monsieur. Avec Onyangé, avec... soyons sérieux quand même, madame.
Monsieur Dion, est-ce que vous pouvez revenir très rapidement sur... vous disiez tout à l'heure qu'il y a des raisons évidentes pour lesquelles l'Église catholique voulait absolument ou voudrait absolument observer ces élections. Quelles sont ces raisons évidentes? Et aussi à la question sur le déséquilibre de la commission électorale dont a parlé monsieur Vina.
Je vous réponds, madame, en deux temps. Le premier temps est le suivant. D'abord, je me permets de dire que ce n'est pas responsable de la part de M. Ebina de demander au peuple congolais, heureusement que le peuple congolais n'est pas idiot, heureusement que le peuple congolais est sage et intelligent, de demander au peuple congolais le boycottage des élections. Parce qu'il a une idée derrière la tête, il estime que, il est tout dans les stéréotypes et dans des clichés. Il ne peut pas faire ça, ce n'est pas responsable de sa part. Laisse le peuple congolais aller voter librement parmi les 7 candidats, celui qu'il voudra. parce que c'est le souverain primaire. Maintenant, pour revenir à l'Église catholique, vous savez très bien la déclaration que l'Église catholique a faite il y a quelque temps, qui a créé un vrai tollé dans la mesure où l'Église catholique, je me répète encore, j'ai fait une lettre ouverte aussi là-dessus, elle a le droit, en tant que membre de la couche de la CD Congrès, de donner son point de vue. Par contre, ce n'est pas son rôle de faire de la politique.
Donc, vous avez, les autorités ont refusé cette accréditation pour punir l'Église catholique de ses prises de position le mois dernier sur ses réserves exprimées concernant le processus.
Nous savons tous quel est le rôle d'une Église, hein, même à un enfant. Le rôle d'une Église, c'est de prier pour la paix.
Non, s'il vous plaît, j'ai posé une question précise, monsieur.
De prier pour la stabilité.
Monsieur Ndion.
Lorsque vous êtes là pour diviser une société, c'est pas votre rôle. Il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, même moi au pouvoir, j'allais refuser de donner l'accréditation à l'Église catholique.
Merci.
Elle s'est pure et simplement démarquée de son rôle primaire.
Merci. Donc, on a compris que c'était pour punir, c'était comme ce refus, ce sont des représailles après la prise d'opposition de l'Église catholique le mois dernier. Je vais peut-être vous redonner la parole, Monsieur Félicien Mavungu. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que vous auriez peut-être pas dû prendre ces positions, c'est la conférence épiscopale, avant même l'organisation de ce scrutin, vous exprimiez déjà vos réserves. Est-ce que vous estimez que peut-être vous n'auriez pas dû prendre clairement position avant le scrutin?
Non, je crois que l'Église ne regrette rien. C'est une prise de parole, tout simplement, et ce n'est pas la première fois que l'Église parle pour inviter à plus de justice à gérer les choses autrement.
Je pose la question, peut-être que dans la posture des autorités, elles se disent, de toute façon, elle a déjà une position tranchée, elle a déjà exprimé ses réserves, donc ses observations ne pourraient aller que dans le sens des critiques.
Mais madame, nous n'avons pas pris position pour un candidat. Nous avons seulement émis le réserve sur le déroulement du processus électoral.
La transparence.
Et comme la transparence, madame, mais comment la transparence a... Ça se vérifie dans les bureaux de vote. Et mais nous, Église, comme citoyens d'un pays, on a le droit d'aller de mettre certaines réserves. Où est le problème à ce niveau-là?
Et maintenant, aujourd'hui, quand vous êtes écarté du processus, comment allez-vous vérifier et faire votre travail d'évaluation de ce processus? Est-ce que vous avez un autre moyen de contrôler l'élection?
Mais ça n'est que de manière individuelle et informelle, puisque l'accréditation qui nous a été refusée allait nous permettre justement de nous organiser de manière formelle et de manière officielle. Parce que quand on accrédite une institution, à la fin, elle remet un rapport au pouvoir public. En fait, c'est parce qu'on on n'évalue pas bien le travail d'observateur. Nous ne sommes pas pour un parti politique, mais nous sommes là justement pour...
Allô? Allô, monsieur l'abbé? Allô? Oui, on ne vous entend pas, votre voix, la communication se robotise. Je vous propose de revenir dans quelques instants pour pouvoir écouter la suite des propos de l'abbé Félicien Mavungu sur le refus des autorités de donner à l'Église catholique l'accréditation nécessaire, ou plutôt l'autorisation nécessaire pour déployer ses observateurs pendant l'élection présidentielle de dimanche prochain au Congo.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Les conditions d'une élection apaisée et transparente au Congo sont-elles réunies? L'élection a lieu dimanche prochain. 7 candidats sont en lice et nous donnons la parole aujourd'hui à 4 Congolais. Il s'agit de Patrick Ndion, membre du comité central PCT, président du PCT en France. Félicien Mavungu, l'abbé Félicien Mavungu, devrais-je dire, prêtre catholique et coordonnateur de la commission épiscopale Justice et Paix au Congo. Marcus Kissa, coordonnateur du collectif Sassoufi, proche de l'opposition, et Joe Washington Ebina, président de la fondation Ebina. Monsieur l'abbé, je vous donne la parole pour terminer vos propos. Vous étiez en train d'expliquer le rôle qu'aurait joué dimanche prochain votre mission d'observation ou vos observateurs pendant ce scrutin, une mission que finalement vous ne pouvez pas remplir faute justement d'accréditation.
Bon, nous irons voter. Hein. Comme tous les citoyens, nous ne sommes pas pour le boycott. Et nous savons que la chaise vide n'a jamais arrangé les choses. Mais seulement, nous recusons l'accusation de la prise de position politique qui nous a été
reprochée.
Oui, nous n'avons jamais, l'Église n'a jamais pris de position politique. On n'a jamais soutenu un candidat. Dimanche prochain, nous irons, on n'a pas donné des consignes de vote. Dimanche prochain, les chrétiens iront voter librement. Voilà, madame. Mais seulement, nous, c'est le fait qu'on nous a autorisé, on ne nous a pas autorisé de ces élections.
Merci.
Alors, ça, c'est une option qui a été prise par les commissions justice au niveau de l'Afrique centrale. Au Gabon, au Cameroun, en RDC, partout, les commissions justice observent les élections, font des rapports. Donc, si nous n'avons pas été autorisés, nous prenons ça comme une injustice. Peut-être à cause de la prise de parole des évêques.
Merci beaucoup.
Faire, mais nous, au moment, pour l'une, allons dialoguer avec nos partis, tout simplement, parce que c'est ça aussi le rôle de l'Église. L'Église n'a pas de prise de position, mais l'Église dialogue franchement avec les décideurs politiques.
Madame. Merci, l'abbé Félicien Mavungu. Joe Washington Ebina, vous vous appelez donc au boycott. Dimanche prochain, est-ce que vous pensez que votre message sera entendu par les électeurs?
Oui, je tiens déjà à informer et à rappeler à M. Nzion que l'abstention est une expression démocratique qui d'ailleurs est conforme à la loi. Cette loi, justement, du changement de la Constitution du 25 octobre 2015. C'est un boycott pacifique. Nous demandons un boycott parce que nous considérons qu'un dialogue national inclusif s'impose. Vous ne demanderez à aucune équipe sportive de monter sur un air de jeu sans que les règles soient bien établies, soient fiables. Sinon, oui,
mais les autorités peuvent vous répliquer qu'il y a déjà eu dialogue, je crois que c'était en octobre dernier à Madingou.
Aucune crédibilité, madame. Ce dialogue n'a rien apporté, aucune crédibilité. Il ne peut pas avoir un dialogue au Congo-Brazzaville sans que les prisonniers politiques soient libérés. Il ne peut pas avoir un dialogue sans que la diaspora y participe. Cela ne donne aucune crédibilité.
D'accord.
Nous demandons un boycott pacifique parce que nous considérons que les choses ne peuvent pas changer dans notre pays tant qu'il n'y a pas un dialogue national inclusif.
Merci beaucoup. Monsieur Kissa, l'autre inquiétude, au-delà de la question de la transparence, ce sont les violences. En 2016, après la victoire contestée du président Sassou, il y a eu beaucoup de tensions. Est-ce que vous pensez que cette fois, la situation sera différente?
Écoutez, nous avons publié un rapport récemment, en fin d'année dernière, et ce rapport s'est suivi d'un autre rapport de l'OCCRP, qui est un consortium de journalistes, qui démontre clairement que entre 2016 et 2019, quasiment, le Congo a importé pas moins de 500 tonnes d'armes de guerre. On se demande ce que, en pleine situation de crise sanitaire, financière, on connaît les déboires du Congo avec le FMI, qu'est-ce qui a poussé le gouvernement en place et le pouvoir en place à importer autant d'armes, si ce n'est pour en prévision des élections prochaines. Quand on regarde par-dessus l'épaule et qu'on constate ce qui s'est passé en 2016, on est en droit de s'interroger si justement ce pouvoir ne se prépare pas à un tel revirement en cas de contestation des élections pour l'élection de dimanche prochain.
Monsieur Ndion, on vous accuse et vous soupçonne de préparer la guerre et que inévitablement il y aura des violences cette fois encore.
Mais non, madame, sans faute de respect, mon frère et compatriote est dans un cliché. Dans un stéréotype, il est dans un procès d'intention permanent.
Mais est-ce que le PCT, est-ce que le gouvernement a acquis ou non de nouvelles armes?
Écoutez, moi je n'ai pas cette information-là, je l'entends tel que vous. Par contre, que ce soit vrai, que ce ne soit pas vrai, je ne connais aucun pays dans ce monde qui n'achète pas des armes. Parce qu'une armée doit être bien organisée, bien structurée et armée. Là n'est pas le souci. Je ne pense pas, et je ne connais même pas en Afrique une seule armée, et non plus au Congo, une armée qui achète des armes pour les retourner contre son peuple. Non, c'est un sérieux. La paix a un prix. OK ? La paix a un prix. Aujourd'hui, nous sommes en paix. il y a de la stabilité. Il faut la préserver, c'est tout.
Donc vous estimez que l'élection sera apaisée et au niveau de la transparence, vous vous assurez aussi qu'elle le sera?
Bien sûr, toutes les conditions sont réunies. Le dernier dialogue national que nous avons fait, la concertation politique de Madingou avec toutes les parties prenantes démontre, et jusqu'au déroulement actuel, jusqu'à aujourd'hui, que toutes les conditions sont réunies pour la crédibilité des résultats, pour la transparence et pour... tous les opérateurs étrangers sont là, toutes les sociétés sont représentées. Les étrangers sont là, les nationaux sont là, la société civile est là, les églises sont là, toutes les couches vives de la société sont représentées. Donc je n'ai aucun motif, aucune raison, même pas un début, même pas un commencement, de raison pour dire qu'il y aura des problèmes après l'élection présidentielle.
Merci. Monsieur Bina, vous êtes aussi confiant quant au bon déroulement de l'élection dimanche prochain, même si vous appelez au boycott?
Oui, non, mais je tiens à rappeler qu'en 2021, on ne définit plus la paix comme étant simplement un problème d'armes. La paix au Congo n'a pas de paix au Congo parce que les retraités vivent depuis des années sans pension, parce que les étudiants n'ont pas accès à leur bourse, parce que simplement il n'y a pas d'accès aux médicaments et au logement et tout le reste. C'est ça le problème de la paix. C'est pas un problème d'armes, on est en 2021. Donc moi, je veux simplement dire une chose, c'est que c'est une demande démocratique de notre part, de demander aux Congolais de s'asseoir pour trouver les bonnes raisons pour que le pays puisse avancer. Et ça, c'est fondamental pour notre conception dans la plateforme de la société civile que nous défendons.
Merci beaucoup. Mais, l'abbé Félicien Mavungu, comment voyez-vous le scrutin de dimanche?
Vous savez que nous souhaitons que tout se passe bien, mais tout peut arriver aussi dans un pays. Hein. Comme a dit M. Ibina, en 2016, ça va aboutir à des affrontements et même à une guerre qui a commencé au sud de Brazzaville, qui s'est étendue
dans le Poule, notamment.
La région du Poule. Oui. Donc tout peut arriver, et c'est pour cela que nous avons sollicité la compréhension des décideurs politiques pour que les choses se passent normalement, que le fichier électoral soit maîtrisé, et puis bon, bien sûr qu'on a soulevé, que les évêques ont soulevé d'autres problèmes, mais tout cela, si vous lisez bien...
Vous avez même exprimé aussi des inquiétudes sur...
La prise de position d'évêques...
La crise sanitaire.
C'est pour l'intérêt, c'est pour l'intérêt du pays, parce que l'Église n'a aucun candidat.
Mais dans ce cas, l'abbé Félicien, les élections, on va donc aux élections de dimanche dans les conditions qu'on connaît. Un certain nombre de recommandations ont été faites par la conférence épiscopale. Dites-vous, elles n'ont pas été suivies. Mais est-ce que malgré tout, vous êtes optimiste quant au bon déroulement de ce scrutin et la garantie de transparence aussi?
Mais nous prions que tout se passe bien. Comme je vous ai dit, nous irons voter. Et nous n'avons donné aucun conseil de vote. Contrairement à ce que certains seraient tentés de penser, et nous espérons que ça va se passer, mais madame, je dis bien que tout peut arriver dans un pays.
Hein. Merci.
Avec, comme dit M. Ibina, il y a beaucoup de frustration dans le Congo. On souhaite que les gens et les autres comprennent vraiment qu'il y a l'intérêt supérieur de la nation.
Monsieur Kissa, confiant malgré tout, malgré ce que vous entendez?
Excusez-moi, j'ai pas bien entendu.
J'ai dit vous êtes confiant malgré ce que vous entendez. Vous avez 15 secondes.
Non, je ne suis pas confiant du tout. Je reste très, très dubitatif par rapport à la suite des événements. Et j'espère que ça, que le pouvoir entendra raison et n'essaiera pas quelque chose.
Merci.
De fâcheux.
Monsieur Marcus Kissa, coordonnateur du collectif Ça suffit, Félicien Mavungu, prêtre catholique, Patrick Dion, membre du comité central du PCT, et Joe Washington Ebina, président de la fondation Ebina, étaient nos invités ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end.